hommage à Dungeon Keeper.
Hey, toi!
Moi? Comment osez-vous?
Oui, toi, au tout du chemin, tu vois pas que je travaille?
Misérable gobelin. Je suis le comte Vlad Tepes, 8e génération de vampire, à la réputation terrible.
Écoute, là, moi, ce que je vois, c'est un gros con au milieu du chantier. Tu vois pas que je construis un piège à gaz?
Ridicule. Les gens de mon ordre n'ont même pas besoin de respirer. À quoi est-ce que cette bricole peut-elle bien être utile?
C'est une décision du maître du donjon. Il en a marre de tous ces aventuriers chercheurs d'or qui passent par ici. Ça fait 3 invasions cette semaine.
Yes. Le maître du donjon? Très, très bien. Vous pouvez poursuivre votre travail.
Maudit vampire pédant.
Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition du lundi 29 juin 2009 de votre émission sur le monde ludique puissance maximale sur les ondes de CKIA, ou peut-être que vous nous reprenez sur Radio Taiga ou sur l'île d'Anticosti. Et comme à l'habitude, je suis en compagnie de mes compagnons de travail de puissance maximale, François G. Couillard.
Salut Vincent Langlois.
Hey François. Et également aujourd'hui, Alexandre Bélanger.
Salut Vincent.
Bonjour.
Salut François.
Hey, on va saluer tout le monde encore une fois, non? Et les gars, faisons un petit tour de table pour débuter l'émission. Une émission quand même assez chargée.
Comme d'habitude.
Oui.
Donc, moi, j'ai commencé par vous parler du steampunk. Donc, qu'est-ce que c'est le steampunk? D'où ça vient? Qui sont les auteurs principaux? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Tout ça.
Bien, hâte de voir ça de ton côté, Alexandre.
Hey, moi, aujourd'hui, je présente une chronique musique sur le jeu Heroes of Might and Magic 3. Mais bien sûr, on va parler du jeu aussi.
Excellent. Et de mon côté, bien, moi, j'ai fait l'essai dernièrement du jeu Ghostbusters The Game.
Oh, ouais.
Et donc, on fera un petit retour dans quelques minutes à peine. On fera un petit retour dans nos souvenirs de 1984 et même 1989 avec Ghostbusters 2.
Boy.
Et on pourra parler du jeu par après.
Notre jeune temps.
Eh oui, déjà, ça passe tellement vite. Et on va commencer en musique immédiatement, François.
Ça va être la sélection de Yannick Capmarty de Haute-Garonne. On salue les gens de la France. Et puis là, ça va être évidemment sa sélection de cette semaine. Ça concerne le jeu Final Fantasy X-2, mais c'est lui qui présente sa pièce. C'est la tradition à puissance maximale.
En 2003, Final Fantasy X-2 débarque sur la PlayStation 2. Ce nouvel épisode est édité par Square Enix, suite à la fusion en 2003 entre les deux géants Square et Enix.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale.
De retour sur les ondes de CKIA Puissance Maximale et nous allons tout de suite parler de Ghostbusters. Et Ghostbusters, messieurs et chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez d'excellents souvenirs de ce film-là ou des deux films finalement.
Et aussi du jeu de l'époque.
Oui, le jeu à l'époque avec la petite écho qui se promenait et on ramassait des fantômes dans la ville de New York qui était plutôt... une vue aérienne, un plan aérien de tout ça. Ouais, des bons souvenirs. Et même, moi, le film, en fin de compte, si on parle du film en partant, je ne sais pas si vous avez des souvenirs des différentes choses qui se disent dans la version française, là, des choses qu'on entendait du style on l'a vu, on l'a eu, et il l'a eu dans. En tout cas, je sais pas, des affaires qui sont restées marquées ou.
J'ai pas monté mon kit de censure, là, mais ça s'en vient.
Ça aurait quand même été bon d'avoir des choses. J'ai pensé même en amener des montages, mais bon, comme je suis pas très, très informatique, ça aurait été un peu difficile pour moi de pouvoir faire ça. Et le fameux Gazer qui demande à Ray vers la fin du film: es-tu un dieu? Et lui, tout peinard, qui répond non. Il dit alors péri, des choses comme ça. Ça reste c'est des choses qui sont restées quand même dans notre imaginaire. Des phrases qu'on peut même dire de temps en temps. Hey, à nos amis. Eh bien, Ghostbusters, the video game, le jeu vidéo.
C'est quoi déjà le slogan? On l'a vu, on l'a eu.
Et il l'a eu dans. Et voilà, mais je l'ai bien dit et ça n'a même pas paru. Alors, dernièrement est sorti le jeu Ghostbusters, the video game. C'est un jeu dont on avait entendu parler quand même. Depuis un certain temps, parce que on s'échangeait la balle en différents concepteurs de jeux, qui allait le faire, parce que ça avait commencé, ça avait pas été très bien avec un concepteur. Finalement, c'est Atari qui a terminé avec le jeu entre les mains. Et avec les rumeurs d'un Ghostbuster 3 qui devrait s'en venir peut-être en production à l'automne, l'année 2010, et peut-être sortir plus tard. Et je sais pas si vous avez vu les acteurs aujourd'hui, mais ils sont peut-être plus vraiment assez en forme pour ressembler au Ghostbuster. Pour moi, ça va
les a pas empêchés de faire Indiana Jones.
Non, mais si on regarde avec Harrison Ford quand même, qui a fait un Indiana Jones 4, qui était pas si pire que ça quand même. Bien, ça serait confirmé pour le jeu. Bien, pour le film, Atari a sorti il y a deux semaines de ça le jeu Ghostbusters pour la Xbox 360, la PS3 et la Wii. Moi, je l'ai essayé sur la Xbox 360 parce que j'avais entendu dire que c'était meilleur au niveau du graphisme, même si la PS3 est une machine qui tire beaucoup. Les tests avaient été faits pour les différents sites américains. Ils disaient que la version du Xbox 360 était vraiment meilleure. Mm-hmm. Et vraiment, je suis resté impressionné au côté graphiste. On va s'en parler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est Ghostbusters, le jeu? Ben, c'est un jeu d'action à la troisième personne. Il peut se jouer seul.
Un jeu de tir?
Ben, un jeu de tir. En fin de compte, c'est un jeu... Oui, en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fameux pistolet ou le fusil à proton pour... prendre des fantômes, mais c'est pas un jeu de tir à la Call of Duty ou des choses comme ça là, où on fait seulement ça pour avancer. Il y a quand même une partie cinématique, une partie où on doit appuyer sur des boutons pour aller dans des ascenseurs, monter des marches, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un jeu d'action. C'est pas vraiment un jeu d'aventure dans le sens qu'on part à l'aventure pendant un bout de temps, mais c'est un jeu d'action dans lequel on doit d'abord trouver des fantômes dans la ville de New York et faire de l'argent avec ça. Et à partir de ça, on peut justement améliorer notre équipement.
Ah oui, on vend dans le fond les fantômes. Quand on attrape les fantômes, les gens nous payent.
Ça nous donne de l'argent, mais oui, comme dans SOS Fantômes, c'est un business dans le temps, Ghostbusters. Donc oui, on fait de l'argent avec ça.
Okay.
Et on peut, comme on disait tout à l'heure, hors d'onde, customiser, dans un bon français, nos appareils, notre équipement. Alors, on est la nouvelle recrue de l'équipe de Ghostbusters, SOS Fantômes, et on doit accompagner les quatre membres originaux, qui sont Peter Venkman, Ray Chance, Egan Spengler et Winston Zeddemore, qui sont tous là dans le jeu. Au début, Winston, qui était le quatrième dans Ghostbusters, n'est pas là, fait qu'on se dit, bon, peut-être qu'on le remplace, mais il arrive quelques scène après le début du jeu. Et l'aventure se passe toujours dans la ville de New York, comme à l'habitude. On se promène dans une toute nouvelle aventure. En fin de compte, on refait pas les films, mais on repasse dans des endroits qui ont été popularisés dans les deux films. Okay. Bon, qui avait été écrit par... cette aventure-là du jeu a été écrite par Harold Ramis, qui faisait Egan dans le film, et également Dan Aykroyd, qui faisait Ray. Et donc, on repasse à l'hôtel... Sedgwick, Times Square, la librairie de New York, des choses comme ça, ben, la librairie, la bibliothèque, je m'excuse pour l'anglicisme, et on se promène dans ces endroits-là pour aller capturer les fantômes.
Donc, il y a des clins d'œil au film, mais seulement avec les lieux.
Oui, c'est ça, puis avec quelques personnages aussi, là, bien sûr, le fantôme dont j'ai oublié le nom à la fin, là, en fin de compte.
Le bonhomme vert, là?
Oui, c'est ça, ben, c'est vert. Slime, ou Slime, en tout cas.
Oui, oui.
Il est là-dedans, Stay Puft, j'ai oublié le nom en français dans la traduction, le fameux bonhomme guimauve.
Oui, oui. Bibonhomme,
Chabalo. Ou Chamalo, ah, oui, ou Chamalo, oui, c'est ça. Qui est de retour dans le début du jeu, c'est quand même surprenant parce que je m'attendais peut-être à avoir ça à la fin, un retour.
Dans le film, il arrive à la fin.
Hein? Oui, ben c'est ça, mais bon, il est dans, disons, la première partie du jeu. Et bon, il y a quand même des clins d'œil à ça. Au niveau de la jouabilité, c'est quand même intéressant comme jeu, vraiment. Là, je m'attendais à rien. Là, rien qu'à penser à ce qu'on avait, comme on discutait tout à l'heure, du jeu de Ghostbusters à l'époque, qui était quand même pas si mal, mais c'était quand même limité, parce que bien sûr, les jeux étaient limités à cette époque-là. Moi, je suis resté surpris. Par l'utilisation du fusil à proton, je pensais que ça allait être hyper difficile à capturer les fantômes avec ça. Mm-hmm. Pas trop de problèmes. En fin de compte, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on doit le stabiliser et diminuer un peu sa force. Et après ça, on réussit à l'avoir et l'amener dans des différentes trappes à fantômes sans trop de problèmes.
Est-ce que c'est un travail d'équipe ou t'es tout seul?
C'est un travail d'équipe. Tout le monde est ensemble en équipe, mais bien sûr, quand il arrive 3-4 fantômes à la fois, ça veut pas dire que on va être tous ensemble sur le même fantôme. Mm-hmm. Peut-être que les différents équipiers vont aller sur un, puis toi, tu t'en prends un autre. Mais il est possible, après ça, de sans croiser les effluves, comme il disait dans le film, de capturer un fantôme à 3 ou à 4.
Qu'est-ce qui arrive, justement, quand on croise les effluves?
Ben, ça arrête complètement. Là, on tombe à terre. C'est comme si on avait pris un choc électrique terrible. Et bien sûr... plus de fois on le fait, plus de chances on a de mourir et d'arrêter le jeu.
Okay.
Et aussi également, quand on est attaqué par des fantômes, des choses comme ça, on tombe à terre, c'est comme si on perdait la vie, mais il y a possibilité que nos coéquipiers viennent nous redonner vie.
Ah.
Et on fait la même chose avec nos coéquipiers.
Ah,
sauf si tout le monde tombe en même temps, ben là, c'est là que le jeu s'arrête.
Okay.
Donc, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Bon, les déplacements se font bien. Le jeu est linéaire. C'est pas un Grand Theft Auto, c'est pas un Oblivion dans lequel on va se promener partout sur la carte. C'est vraiment linéaire. On a une mission à faire.
Il y a une aventure.
Donc, on arrive dans la ville de New York et on ne peut pas aller partout dans les rues. On suit vraiment le trajet. Et on rentre dans des buildings, on ressort. Donc, c'est un jeu de ce type-là. Au niveau graphique, comme je vous le disais, c'est assez impressionnant. Vraiment, là, les couleurs sont belles. La définition des personnages est extrêmement bien faite. Ça m'a vraiment surpris. C'est vraiment très beau. Et, ben, les effets sonores pour un jeu comme ça, ben, moi, j'ai des écouteurs à la maison, un peu comme ce qu'on porte ici présentement. Donc, je ne dérange pas personne. Je ne dérange pas les voisins. Et je peux vous dire que si on a un cinéma maison, j'imagine que ça doit être quand même assez impressionnant ce qui sort de là, parce que c'est très, très bon au niveau des effets sonores. Donc, comme je vous le disais, les graphiques sur la Xbox 360 ont été les graphiques qui ont été cotés les meilleurs. PS3, c'est quand même pas si mal d'après ce que j'ai pu lire. J'ai pas eu la chance de tester le jeu sur PS3, mais c'est quand même pas si mal. Mais vraiment au niveau parce qu'en fin de compte, tout, on peut détruire un peu tout sur notre passage.
S'il y a
des voitures dans la rue qui sont rentrées l'une dans l'autre, on peut, avec notre fusil à proton, faire tomber une porte, prendre en feu un mur, des choses comme ça.
Ah, c'est chouette,
et, ça. Et tous les effets spéciaux qui sont reliés à ça, par exemple, le feu dans un mur qui brûle après le proton, sont plus vifs, sont plus faciles à voir sur la version du Xbox 360 par rapport à la PS3. C'est ça qui avait fait dire aux critiques à l'époque, mais en fin de compte, il y a quelques semaines de ça, que c'était vraiment impressionnant de voir ça sur la 360 et même surprenant par rapport à ce que la PS3 peut donner.
Ben oui.
Que serait Ghostbusters sans l'humour? Parce que bien sûr, c'est un jeu où on peut rire également. C'est une comédie. Comme je le disais, ça a été écrit par les gars qui ont écrit Ghostbusters.
Ben oui.
Donc, on s'attendait à avoir un peu d'humour là-dedans. Bien, à sa façon, chaque personnage amène sa petite touche d'humour. Vous vous souvenez de Peter Venkman, qui était joué par Bill Murray à l'époque. On sait que lui, c'était plutôt un clown. Il y a toujours la réplique facile à tout ce qui se passe, puis la réplique comique à toutes les fois.
Ouais, c'est une sorte de héros de série B des années 80, ça, non?
Ouais, ouais. Un peu, puis...
Maître du one-liner.
Ouais, puis c'est ça, là, puis vraiment, là, cruiser un peu, là, puis toutes les fois qu'il y a une femme, hein, c'est en plein ça. Et bon, ben, il change pas.
Est-ce qu'on voit Rick croise une femme, Moranis, le personnage qui était joué par Rick Moranis, qui était le maître des clés.
Oui, il y avait le maître des clés, la servante de la porte ou quelque chose comme ça. En tout cas, oui, mais Rick Moranis n'est pas de retour, malheureusement.
Okay.
Et même chose pour Sigourney Weaver, son personnage n'est pas repris. Les personnages qui sont dans le film, qui sont repris, ce sont les quatre de Ghostbusters, okay, et également la secrétaire à l'entreprise. Donc, Ray Stantz, qui est joué par Dan Aykroyd, ben lui, c'est toujours le gars qui est émerveillé par tous les phénomènes paranormaux, ça n'a pas changé. C'est vraiment comique de le voir aller avec tout ce qui peut se dire là-dedans. Egon, lui, qui est le scientifique, très à son affaire, il ne change pas non plus. Et on a Winston, qui était le quatrième Ghostbusters, qu'on voit pas tellement. Là. Vraiment, il participe à l'aventure, mais c'est pas celui qu'on voit le plus. Comme en fin de compte, dans les films, il était pas vraiment. On le voyait, mais je veux dire, c'était pas un des personnages vraiment rôle numéro un dans la série ou dans le film Ghostbusters. Donc, ça fait une revue, en fin de compte, rapide du jeu Ghostbusters. Moi, personnellement, je suis impressionné. C'est vrai, il y a une version où on peut jouer sur Internet. En fait, on peut jouer en ligne sur le Xbox Live et sûrement sur le PS3. Je ne l'ai pas testé, comme je vous le disais. J'étais un peu déçu de cette version-là. Parce que quand on arrive sur Xbox Live, on nous demande est-ce que vous voulez jouer type 1 contre 1 ou coopératif, la campagne, par exemple. Bon, j'ai essayé avec un de mes amis qui était à la maison chez lui, la campagne, en se parlant avec les micros et tout ça. Puis on était vraiment pas dans le jeu. C'était seulement un tableau comme ça, puis il fallait juste attraper des fantômes. D'habitude, quand on dit vous pouvez faire la campagne ensemble, c'est qu'on peut faire le jeu ensemble. Oui. Malheureusement, on n'a pas été capable de le faire, donc ça m'a vraiment déçu à ce niveau-là. Je m'attendais à ce que je puisse faire le jeu, une partie du jeu avec des gens que je connais ou avec des amis Internet sans trop de problèmes. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je donnais un 8.5, mais comme ça m'a déçu un peu cette partie-là, je descends de 0.5 la note, je donnerais un 8 quand même, qui est quand même pas si mal, parce que c'est vraiment, là, pas besoin de l'Internet, pas besoin du jeu en ligne pour apprécier ce jeu-là, là, vraiment. La campagne solo, elle est très bonne.
Ouais, c'est un petit commentaire, parce que le jeu est sorti sur le DS, mais les critiques sont exécrables pour ce jeu-là, contrairement à celles du Xbox 360 puis du PS3, là, les critiques pour le DS sont vraiment affreuses, donc dirigez-vous vers les versions
si vous avez
consoles,
les consoles, ouais,
traditionnelles.
Oui. En tout cas, je sais pas, est-ce que tu étais au courant pourquoi la version était un peu plus...
Je crois que c'est le contrôle, le tir, le...
C'est pas évident non plus jouer avec le stylet, là, avoir un bon jeu. Il faut vraiment que les développeurs travaillent sur
le DS, les développeurs font souvent l'erreur de tout miser sur le stylet, mais il faut pas tout miser sur le stylet parce que ça devient énervant. Mm-hmm. C'est le meilleur mot que j'ai. Les meilleurs jeux vont te donner l'option, ils vont te donner le choix. Et quand tu as le goût de jouer avec le stylet, tu vas jouer avec le stylet.
Ouais.
Et dans ce cas-là, ben, c'est pas le cas, là. Justement, c'est le contrôle du stylet obligatoire et contraint. Mais je voudrais pas dire des niaiseries.
Non, mais quand même, c'est un bon commentaire parce que moi, j'ai le DS également, mais je veux dire, il est remisé depuis quelques mois. Tu verras sûrement me frapper la main à la pause, Alexandre. mais je l'ai remisé depuis quelques mois. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais bon, moi, je donnerais un 8 sur 10 pour le jeu quand même, qui est pas si mal. Ça vaut la peine de l'acheter. La campagne, paraît-il qu'elle n'est pas très, très longue. Moi, je suis rendu à peu près à la mi-campagne, puis j'ai à peu près... je dirais 4 ou 5 heures de mi dessus, donc ça se peut que ce soit un jeu de 8 à 10 heures ou peut-être 12 maximum si on étend là, mais ben, en fin de compte, il y en a qui sont très heureux quand ils arrivent à 10 à 12 heures, mais moi, personnellement, j'aime mieux un 15-20 heures. Quand on investit l'ordre de 60$ ou parfois 69$ pour un jeu, je pense que ça vaut la peine d'avoir une vingtaine d'heures de jeu.
Au moins. Hey, là, tu en as parlé un petit peu au début de ta chronique. Là. Le Ghostbusters, le jeu, on l'attendait à cause qu'il a été changé de publier, de publisher.
Ben, en fin de compte, moi, je me souviens qu'on avait fait un petit retour quand on faisait de l'actualité. Des fois, j'arrivais dans les mois passés que ça faisait un petit bout qu'on en parlait de Ghostbusters. Puis là, ça se développait pas bien. Puis normalement, ça devait être exclusivité telle console. Finalement, c'est devenu un 3 consoles, même en plus avec la DS, tu me dis. Donc, multi-console. Et ça a été vraiment long. Là. Je sais pas si l'histoire était avec en même temps les gens de Ghostbusters. Donc, à Ramis, Aykroyd, qui ont quand même des droits là-dessus, en plus de ce qui se passait. Je me souviens pas nécessairement de l'histoire qui était autour de ça, mais ça a été long avant vraiment de trouver là, une entreprise stable et fiable pour développer le jeu au complet.
Excellent. Mais je peux te dire qu'en tant que rétro gamer, quelqu'un qui a joué beaucoup au Commodore 64, pour moi, voir une annonce que le nouveau Ghostbuster allait sortir, moi, ça m'a déclenché mon intérêt immédiat. parce que le jeu du Commodore 64 était un excellent jeu en comparaison aux autres jeux. Oui, c'était vraiment... Puis ça ressemble beaucoup à ce que tu as dit, tu te promenais dans New York, mais c'était pas linéaire, par contre.
La ville était vraiment...
un damier, là.
Oui, c'est un damier, puis tu te promenais, d'aller d'un bord puis de l'autre, puis quand il y avait un fantôme qui parlait... Oui, quand il y avait... j'ai joué à ça, je me souviens tellement, là, vraiment, c'était assez incroyable. Puis il y avait les petits fantômes verts qui flottaient au-dessus d'une rue, puis là, puis tu passais avec l'auto, puis tu pouvais les aspirer, ou si tu passais trop vite, tu les avais pas.
T'arrêtais un dentiste, là.
Oui. Également, ben oui, c'est vrai.
Tu faisais de l'argent, puis avec l'argent, ben tu augmentais les capacités de ton véhicule, du Epcot, là, comment ça s'appelle?
Oui, c'était l'Echo 3, je pense. L'Echo 3.
On a aussi des geeks de Commodore 64, je ne savais pas.
Oui, en fin de compte, moi, peut-être un peu moins qu'Alexandre, mais moi, je me souviens d'avoir joué également à ça, puis c'était...
Écoutez, vous allez être contents, parce que là, la prochaine pièce qu'on va jouer, ça va être des sons de Commodore 64, oui. Justement. C'est la sélection musicale de Toy Company. Je te remercie, Vincent, d'avoir parlé du jeu Ghostbusters.
Ben, ça me fait plaisir.
Qui est sorti sur la PS3 et la Xbox 360. Toujours intéressant, évidemment, pour les nostalgiques et les non-nostalgiques. Qui sait? Faites découvrir ce jeu à vos enfants. Un jeu de chasse aux fantômes, c'est populaire.
En tout cas, écoutez le film si vous n'êtes pas nostalgique.
Oui, écoutez pas le 2, écoutez le premier.
Oui.
Sinon, eh bien, c'est ça. Donc, sélection musicale de la Toy Company. Toy Company qui va être présente au Festival of de Québec. Donc, un beau collectif de musiciens qui sont inspirés de la musique des jeux vidéo de notre bon vieux temps, des années 90, pour faire de la musique électronique. Alors, la Toy Company, sélection Taxi Nouveau. Voilà. Vous êtes à puissance maximale.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
De retour sur les ondes de CKIA, nous allons passer à la chronique d'Alexandre Bélanger en musique.
Hey, salut à tous. Aujourd'hui, je parle d'un jeu et de la musique d'un jeu qui a été très populaire sur le PC. Ce n'est pas un jeu de console, ce n'est pas un jeu japonais, c'est un jeu américain qui a été conçu par la compagnie New World Computing et publié par la compagnie 3DO, qui malheureusement n'existe plus. Le jeu a été publié en 99, mais là c'est la troisième incarnation du jeu de cette série-là. On parle de Heroes of Might and Magic et 3. Aujourd'hui, je parle du 3 parce que c'est ma musique préférée. J'ai beaucoup joué au 2, j'ai même joué au 1, j'ai même eu la chance de jouer au 1, mais c'est des vieux jeux de PC.
Moi, à l'époque, j'étais même pas joueur de PC, puis je ne suis pas encore du tout. J'ai toujours été un joueur de console, mais ça me fascine de voir comment qu'on peut être vraiment là, passionné de tout ce qui se passe. Tu me rappelles le titre du jeu?
Heroes of Might and Magic.
OK.
Oui, et on entend une musique un peu baroque, médiévale.
Ouais.
Comme seul ce jeu a pu nous offrir. Là. C'est vraiment une belle musique classique, symphonique.
C'était mieux d'être beau parce qu'on l'entendait constamment en loop. Ce qui est souvent le cas dans les jeux en général.
Mais, François, tu ris, là, mais c'est un peu ça qui nous rend... pas accro, mais qui nous accroche, qui nous permet de rester dedans.
Ben, puis même qu'une bonne chanson dans un jeu, là, une bonne musique, moi, ça me juste me rappeler d'Oblivion ou Morrowind là, dans les Elder Scrolls. Là, c'est, quand t'entendais la toune titre, là, t'es en train de te promener sur le terrain, puis t'entendais ça arriver, tu fais « Oh yes! » Je l'attendais. Là,
c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai l'impression que c'est aussi inspiré un peu de la musique classique, ça, que ce soit la soundtrack d'Oblivion ou de Hero of Might and Magic.
C'est très symphonique.
Aujourd'hui, les compositeurs de la musique que je présente ont aussi composé la trame sonore de EverQuest. Okay. Mais peut-être qu'ils ont des rapports avec Morrowind et Elder Scrolls, toute la série.
Oui, EverQuest qui est le MMO, un des premiers MMO là, de masse. Là,
Qui a fonctionné, qui a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Et quand même des gens se sont suicidés pour, etc. Oui, EverQuest. C'est le premier grand événement, je ne veux pas être négatif dans mes propos. Presque, le jeu est un jeu. Et les compositeurs sont Rob King et Paul Anthony Romero. Ce sont des compositeurs américains.
Oh, pour la première fois, tu nous parles des compositeurs américains.
Américains, oui, mais qui sont très célèbres dans le domaine. Et si on va voir sur leur site, on voit toute leur participation. Ils sont très, très, très prolifiques, très sollicités aussi. Aussitôt que quelqu'un veut une pièce classique bien faite selon les normes là, de la musique baroque, ben c'est eux qu'on va appeler. Je rappelle, c'est surtout Rob King et Paul Anthony Romero. Romero est un gradué du conservatoire. Donc lui, il a vraiment une formation classique.
En musique classique.
De pianiste. Il a fait fait beaucoup de concerts. Il a été dans 3 conservatoires. C'est un grand musicien, compositeur. Et même que sa première symphonie devra inclure des pièces de Heroes, de toutes les incarnations de Heroes, parce qu'il y a beaucoup de fans de la musique de Heroes of Might and Magic. Et d'ailleurs, le jeu est un excellent jeu, n'est-ce pas, François? François a joué aussi.
Absolument, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième. Mais par contre, je ne suis pas allé au-delà de ça. Le quatrième, le cinquième, ça commençait un peu à dégénérer, je trouve, à mon goût.
Je vais te faire un historique. Je vais te faire un historique. Le premier présente, 6 races. OK, c'est toujours un ensemble de races. On a 6 races, on en prend une au départ. Et chaque race a ses monstres associés avec elle.
Il faut le dire, c'est un jeu de stratégie médiévale fantastique. Donc, on contrôle un héros qui possède une armée et on va envahir les châteaux adverses. Oui. On va capturer des mines et des trucs comme ça.
Mais j'allais le dire, l'armée est composée de créatures mythiques. Okay, et on a vraiment le panthéon de toutes les créatures mythiques et mythologiques à travers ce jeu-là. Et c'est ce qui m'a probablement intéressé parce qu'on a autant des griffons que des phénix, que des behemoths, des géants,
des centaures.
On a vraiment le panthéon complet des mythes.
Des gargouilles, on a tout,
Et tout ça réparti selon des races bien distinctes, les squelettes, les diables, et chacune de ces races-là a sa musique.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, c'était quoi ta race préférée?
C'est que dans Heroes of Might and Magic 3, il y avait une race vraiment plus forte que les autres. C'était les Warlocks qui vivaient. Il y avait 3 races bonnes, 3 races mauvaises et 2 races neutres.
Okay. Oui, les orques étaient neutres, je pense. Hein?
Oui, les orques vivaient, c'est un peu ceux, les barbares qui vivaient dans les plaines, les déserts et
moi,
les
falaises. C'était les nécromants, mes préférés.
Moi, c'était les Warlocks, ceux qui avaient les dragons noirs à leur disposition, qui étaient très forts, autant magiciens que méchants. Et donc, c'était des magiciens méchants. Et je les aimais bien, les Warlocks. Ils étaient vraiment plus forts que les autres au prorata de leur capacité. Les Warlocks étaient meilleurs.
C'est à retenir quand on va jouer à Hero 3.
Oui, Hero, ça fait de Magic 3. Mais bon, je faisais un petit historique. Le premier jeu présentait 6 races. Le deuxième développait ça un peu plus, beaucoup mieux fait. Il y avait beaucoup d'opéra dans le deuxième. Mais le troisième, on a lâché un peu l'opéra. On est vraiment avec des pièces de musique classique, baroque. Là, on se retrouve avec des vrais bons graphiques, vraiment une bonne facture de jeu. Selon beaucoup de fans, c'est le plus réussi de la série. Le 3, c'est le mieux balancé, le mieux fait, le plus complet, le plus profond des jeux. Okay. Le 2, il manque encore un peu de maturité. Mais après le 3, il y a eu le 4 qui a été un échec parce qu'on était obligé de choisir entre différents types de créatures et c'était crève-cœur. Quand on voulait se monter une armée, on était obligé de sacrifier un type de créature et c'est ce qui a détruit la version. Ah oui? Du jeu, oui. Oui.
Et moi, je trouvais plutôt que c'était les graphiques qui étaient juste pas beaux. Je trouvais que c'était atrocement laid.
C'est vrai. Ils ont essayé d'intégrer du 3D. D'intégrer du 3D à travers une interface 2D. Et là, ça commençait à en arracher un petit peu.
Mais ils sont venus en force avec ça, avec Hero 5.
Avec Hero 5, c'est Ubisoft qui a repris et qui a assez bien repris la franchise. Mais là, ils ont vraiment remis ça en 3 dimensions. C'était quand même assez réussi. Ben moi, je préfère l'interface isométrique de Heroes of Might and Magic 3 que celle du 5. Mais le 5 est assez bien réussi. Mais moi, le 3D comme ça, quand c'est ordinaire, j'aime beaucoup les dessins de griffons, les dessins de monstres. Personnellement, j'aime ça. Donc, je vais plus me diriger vers un jeu qui me présente des beaux dessins animés qu'un 3D bâtard. Désolé. C'est une opinion personnelle. Mais aujourd'hui, ben c'est pas mal ce qui conclut ma chronique. Hein. J'ai surtout parlé du jeu. Je voulais vous souligner l'apport de ces compositeurs-là, qui sont très importants. Il y en a un qui est plus spécialisé dans le jeu vidéo, l'autre plus en musique de conservatoire. C'est un résumé rapide de tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et vous pouvez chercher Rob King et Paul-Anthony Romero. Vous allez voir qu'ils ont vraiment un bon palmarès de jeux, souvent américains. PC. Et leur œuvre la plus connue, c'est celle de Heroes of Might and Magic, de toute la série. Et vous entendez d'ailleurs la pièce jouée en arrière. C'est de la grande musique, c'est très ambiant, c'est très doux quand même. On n'est pas dans l'action électronique là, qui est stridente et énervante à Londres. Non, on est dans la musique baroque. Et c'est vraiment d'ailleurs...
Orchestral.
Et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré la composition. Il fallait vraiment que ça aille avec une iconographie médiévale. Et c'est ce qui a émergé. Et je crois qu'on va écouter une pièce.
Ça va être le Evil Theme.
Evil Theme.
Parce qu'il faut évidemment insister sur le fait qu'Alexandre Bélanger est un métalleux. Et en tant que tel, il se doit d'écouter de la musique méchante.
Humblement, parce que le jeu, il y a des bons et des mauvais. Et j'imagine que la musique des mauvais est bonne.
Ça bouge un petit peu plus, j'imagine, que ce qu'on entend là. Ouais. Quand même très... une belle détente, cette musique-là.
Autre parenthèse, ce qui bouge beaucoup, les musiques de combat sont plutôt tribales. Et moi, ça m'intéressait pas de mettre du tribal aujourd'hui. Elles sont plus là avec des tam-tams et des Africains qui se fâchent. Là, aujourd'hui, ça me tentait d'entendre plus le côté lugubre, plus dramatique, pas nécessairement violent, mais c'est dramatique de evil, du thème evil, la race des démons dans le jeu. C'est une race intéressante.
Les démons qui sont pas très, très beaux dans le troisième, mais bon, moi je préfère les nécromants.
Avec les squelettes et... Les nécromants avaient une particularité vraiment intéressante, c'est qu'ils pouvaient créer des squelettes à volonté.
Et quand tu tuais beaucoup de gens, tu finissais par faire beaucoup de squelettes. Mais écoute, Alexandre Bélanger, je te remercie beaucoup. On va aller écouter une pièce tirée du jeu Heroes of Might and Magic 3. Vous êtes à puissance maximale.
Jaune aussi, écoute, puissance maximale.
De retour sur les ondes de CKIA et nous allons passer avec la chronique de François G. Couillard. François, aujourd'hui, tu nous parles de...
Steampunk. On va parler de c'est quoi, c'est le steampunk. C'est quand même important dans le domaine du jeu, donc parlons-en. Steampunk, littéralement punk à vapeur, hein, on traduit à la maison, ça fait punk à vapeur. C'est un terme inventé pour qualifier un genre de la littérature de science-fiction de la fin du 20e siècle, dont l'action se déroule dans l'atmosphère de la société industrielle du 19e siècle. Donc,
de la vapeur.
De là, la vapeur. Donc, fin du 19e siècle, on pense aux villes industrielles, aux grosses machines avec les gros engrenages, les gros écrous.
Les trains.
Et les auteurs principaux de ce style-là, du steampunk, sont Jules Verne ou H.G. Wells. Donc, évidemment, on se souvient, Jules Verne, c'est lui qui a inventé... c'est l'auteur de 20 000 lieues sous les mers, le populaire roman de fiction que tout le monde connaît.
Voyage au centre de la Terre.
Exactement. Donc, 20 000 lieues sous les mers, ça raconte l'histoire du capitaine Nemo qui navigue sous les océans dans une espèce de sous-marin et il combat des calamars géants.
je t'arrête, François. Est-ce que ça serait le départ du steampunk, ce roman-là?
Non, c'est juste simplement que ceux qui ont instigé le style steampunk, ça serait en partie Jules Verne et H.G. Wells. Okay. Mais c'est pas nécessairement le 20 000 lieues sous les mers qui a initié le style steampunk. Et on aimait à l'époque, c'est assez intéressant, ces romans qu'aujourd'hui on appelle de la science-fiction, on appelait ça à l'époque des romans d'anticipation.
Bien sûr.
On anticipait l'avenir, les calamars géants. Et donc, juste pour nommer quelques jeux qui sont inspirés du steampunk, évidemment, en première ligne, on a Fallout. Donc, si on regarde, par exemple, les armures des Templiers, hein, il y a des écrous qui ressemblent à une espèce de grosse chaudière à vapeur, là, les espèces de grosses armures des Templiers. Après ça, on a Deadlands, le jeu de rôle, qui reprend des... c'est la technologie moderne, mais avec des technologies anciennes. On a Thief aussi, le jeu de PC, mais plus avec l'univers médiéval. Mais on retrouve encore des éléments du steampunk. Bioshock, il y a aussi, évidemment, le film Wild Wild West.
Hein, bien sûr, ben oui, c'est vrai.
Avec
Will Smith et Kevin Kline.
Donc, vous voyez les espèces de gros monstres, les grosses machines mécaniques avec des scientifiques fous.
C'est ça.
C'est le steampunk. Et une des principales différences avec la science-fiction des auteurs du 19e siècle réside dans la présence d'éléments modernes, des ordinateurs ou des manipulations génétiques. Le steampunk se distingue aussi par son humour, bien des auteurs considérant le genre comme un jeu littéraire fait de clins d'œil au père de la science-fiction, du roman fantastique ou du roman d'aventure. Donc, c'est humoristique, le steampunk, d'habitude. Le steampunk est apprécié des bricoleurs. En effet, c'est un état d'esprit visant à créer, expérimenter et construire des objets ou des œuvres soi-même. Et c'est en quelque sorte l'incarnation du « do-it-yourself », le « DIY », du mouvement punk. Hein, on voit le punk, le DIY vient du punk, et on a le steampunk, et donc les bricoleurs apprécient le steampunk. Et ça cristallise le cliché du scientifique fou ou de l'ingénieur de génie. Et d'ailleurs, on voit ça, le bricolage, assez éloquemment, parce que je suis tombé dans cette table-là de steampunk en parlant avec Nicolas Joltoc, qui organise aussi les soirées à Rajuku. Et lui, il m'a référé à Romy Noël, qui est une designer de mode de Montréal, que je voulais avoir en entrevue, mais bon, on l'aura peut-être dans les semaines qui viennent. Mais il y a plusieurs designers de mode qui commencent à émerger qui font exclusivement du steampunk. On peut nommer Romy Noël, Zoluna et le bijoutier Daniel Proux. Et là, eux, vraiment, ce qu'ils font, là, quand on parle de bricolage, ils récupèrent des objets en laiton, des engrenages, des trucs comme ça, et ils font des bijoux ou des vêtements.
Ils vont en quincaillerie, finalement.
Oui, vraiment, ils fouillent dans les vidanges, dans les bric-à-brac, et ils font des objets avec d'inspiration steampunk. Et en un raccourci caricatural, on pourrait dire que le steampunk part du postulat que dans l'univers où les machines à vapeur auraient progressé au-delà de ce que nous connaissons, les hommes n'auraient pas éprouvé le besoin d'inventer des moteurs à combustion. Donc, dans un monde de steampunk, il n'y a pas de pétrole, c'est juste de la vapeur. Et de même, l'esthétique est souvent associée aux boiseries sombres et aux laitons. Les engrenages complexes ou simplement décoratifs sont eux aussi souvent employés.
Hey, j'ai une question, François, je veux pas t'arrêter. Il y avait un jeu de rôle qui s'appelait Cyberpunk, si je me trompe pas.
Cyberpunk?
Ouais. Vous avez jamais entendu parler de ça?
Le nom me dit quoi, moi, mais...
C'est que t'as des punks, là, des rebelles de la ruelle qui deviennent cybernétiques, là, c'est-à-dire s'agrafent des bouts de membres et tout ça.
Ça ressemble un peu à Shadowrun, mais c'est pas pareil. Ouais, je me rappelle, c'est un jeu de rôle vraiment indépendant de Shadowrun, mais avec les mêmes inspirations, si on veut. Ouais, je pourrais pas en parler plus que ça.
Excellent, mais déjà, mais ça ferait pas partie du steampunk tout
je
à fait.
Je peux pas m'avancer non, là-dessus. Pas et si on voulait situer le steampunk visuellement dans notre histoire, il faudrait prendre une période allant de l'ère victorienne, donc l'époque des chapeaux melons, des chapeaux haute forme et tout, jusqu'aux années 50. Et en cela, on se rapproche du mouvement gothique. Et même de certains costumes Harajuku. Dans la Harajuku, dans le fond, on fait ce qu'on veut, fait qu'il n'y a pas de limite. Et ceux qui désirent poursuivre leur recherche dans le merveilleux monde du steampunk, eh bien, je vous conseille de regarder Gilded Age Records. C'est une espèce de compagnie d'édition. Ils ont un MySpace et ça regroupe toutes sortes d'artistes musicaux qui font de la musique en lien avec le steampunk. Donc, avec des bruits, avec des bruits de machines, des thèmes steampunk. Et donc, peut-être que vous trouverez quelque chose...
C'est vraiment de la musique ou c'est plus des bruits?
Oui, c'est de la musique. Il y a des groupes de steampunk qui sont vraiment juste de la musique. Il y en a d'autres qui c'est vraiment de la musique. Alors, il y a vraiment de tout. Et là, moi, j'étais chez nous et je me disais, bon, là, ça, pour la chronique, ça me prendrait une pièce d'un groupe qui s'inspire du steampunk. Et là, ça je cherchais, j'allais voir sur MySpace s'il n'y avait rien qui m'intéressait. Et là, j'ai pensé à Hank and Lily. Hank and Lily, qui sont un duo de cowboys britanniques, qui sont venus quelques fois à Québec. Et eux, leur dernier spectacle, ils portent un masque à gaz avec des lunettes fumées. Ils ont une chanson qui s'appelle « Do the Apocalypse », qui est un peu un lien avec les univers post-apocalyptiques, Bioshock, Fallout, c'en est.
Oui.
Donc, il y a toujours des liens avec le steampunk. Et donc, je pense que eux, ça fit très bien avec le style musical. Donc, on va aller écouter ça, tiens, justement. Vous écoutez « Puissance maximale ». Yes, Alligator Boy.
You heard tell by the campfire laughing, wretched creature, the swamp inside. From the swamps of Louisiana, reptile blood, but he looked like a man. In his lonely life, there had no joy. Have you seen
Alligator Boy?
Billy Bob has mean on the porch. Each man grabs a rifle and a torch. Tell my good time to go home. What's that, Bob? Thought I heard something.
Alligator
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Vous l'attendiez depuis déjà plusieurs mois. Il sera bientôt entre vos mains. Le nouveau fanzine de Puissance Maximale. Et François a travaillé fort là-dessus dans les dernières semaines, vraiment, là, à la sueur de son front. Super. Et François, tu nous annonces que d'ici une semaine, ça sera disponible?
Ça va être disponible à travers le Québec. Et si vous voulez l'avoir à l'île d'Anticosti ou à Yellowknife, envoyez-moi un courriel, il n'y a pas de problème. On va vous en envoyer quelques exemplaires.
C'est quoi l'adresse?
Vous allez sur puissancemaximale.com. Toutes les données sont dans la section contact.
Contact, tous nos noms sont là avec nos courriels. Et bon, c'est pour le fanzine, vous contactez François.
Et le fanzine concerne les pirates.
Oh, le thème spécial. Les pirates cette fois-ci.
Et la couverture, c'est Alexandre Bélanger qui l'a fait.
Ah, c'est moi-même en personne. Ouais, c'est toujours difficile d'arriver à faire un dessin satisfaisant, mais je l'ai vu le zine. Hein. Puis allez le voir, là. Allez regarder ça, c'est beau, c'est le fun.
C'est une œuvre d'art.
Oui, je suis content. Là.
On l'imprime pour le fun à quelques centaines d'exemplaires, mais évidemment, il est disponible après ça sur Internet, gratuitement en PDF. Vous pouvez télécharger, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le déchirer, vous pouvez couper dedans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même le lire.
Sauf qu'un zine, surtout celui de Puissance Maximale, c'est une œuvre de collection. On ne découpe pas dedans. On le garde, on le met sur le coin de la table de nuit ou sur le bol de toilette pour le lire de temps en temps. Il n'y a pas de problème.
Il n'est pas dedans. Mais c'est vrai, je pense assez. Il y a des groupes qui vont numéroter leurs albums, tu sais, quand il y en a un prime juste 200. On devrait faire ça avec les fanzines. Comme ça, ça prendrait encore plus de valeur.
Et les autographier.
Peut-être bien.
Pourquoi pas?
On va engager des Boots Babe pour les autographier.
Ça, ça tente-tu de faire un résumé de ce qu'il y a dans le zine?
Oui, bien sûr. Il y a la moitié du fanzine, c'est Philippe Portugal qui l'a fait. Philippe Portugal, qui est un illustrateur qui habite en région.
À Montréal.
Non, il habite. je me souviens plus exactement la région qu'il habite. Il habite un peu en retrait de la société.
Ah, c'est vrai? dans le bois ou de quoi, comme ça?
Quelque chose comme ça.
Ah ouais?
Je sais pas à m'avancer. Là.
Okay. Mais tout ça pour dire
c'est un être mystérieux.
Donc,
somme.
Il a fait deux BD. Et donc, il y en a un qui concerne l'histoire d'un immonde pirate à barbe noire qui se fait capturer. C'est un des membres de l'équipage de barbe noire. Il se fait capturer. Et là, il arrive une aventure. Il y a aussi l'histoire de l'île aux singes. Et là, je lui ai demandé, est-ce que ça a rapport avec Monkey Island? Non, ça n'a pas rapport.
Pas du tout. Même pas d'inspiration.
Je ne connaissais même pas Monkey Island, le jeu. Pourtant, c'est un jeu super mythique, Monkey Island. Et le jeu d'aventure. Et toujours très bon, d'ailleurs, le 1, le 2, le 3, le 4.
Alors, la compagnie Lucasfilm.
Oui.
LucasArts.
LucasArts.
Oui. Ils ont fait aussi... Star Wars, un des premiers jeux de Star Wars qu'on pouvait chauffer un T-Fighter, c'était quand même quelque chose.
Oui, j'ai récemment lu un texte là-dessus qui parlait de LucasArts et qui disait, bon, mais à cause de Star Wars, ils se sont plus concentrés sur Star Wars que sur la production de jeux comme Grim Fandango ou Monkey Island, qui étaient des classiques de fin années 90. Bon jeu, LucasArts.
Absolument, ils ont fait des excellents bons jeux. Et sinon, aussi dans le fanzine, on retrouvera évidemment la chronique du jeu douteux. C'est moi qui l'écris. Cette fois, c'est le jeu Empire auquel on a joué à l'Abraham Martin. C'est un jeu avec une espèce d'énorme boîte.
Hey, d'ailleurs, moi, j'ai lu ton texte, mais moi, je l'avais trouvé belle, la boîte. Et toi, t'en fais une espèce de...
Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'elle est belle, la boîte.
Assez ironique par rapport à cette beauté-là. Mais moi, je la trouvais majestueuse et imposante.
C'est les jeux douteux, donc évidemment, c'est pas toujours très beau. Mais il faut dire que... En tout cas, c'est sûr qu'on peut débattre là-dessus. Est-ce que le jeu est... Mais bon, on s'amuse, hein, c'est de l'humour. Mais le jeu est pas si mauvais que ça.
Je t'ai trouvé méchant, moi.
C'est un vieux jeu, en plus. La compagnie d'édition a probablement fait faillite, alors c'est plus, y a plus de problème.
Bon. J'ai bien hâte de lire, en tout cas, cette chronique-là. Il me semble que ça fait pas unanimité.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans le fanzine? J'essaie de me rappeler.
Et moi, j'ai écrit un petit texte. Un petit texte sur... parce que, bon, moi, j'ai proposé à François, ça a été le début de notre idylle. Non, mais quand j'ai rencontré François, c'était pour lui proposer des chroniques sur les livres dont vous êtes les héros.
Oui.
Dont je fais la collection. Et si vous travaillez au Colisée du Livre ou dans une boutique de livres usagés, peut-être que vous m'avez déjà vu passer et chercher de ces livres qui ont marqué mon enfance.
Ben, ouais, marqué la mienne aussi, mon enfant. C'était, moi, c'était les Dragons d'Or. Les Dragons d'Or avec le tombeau du vampire.
Et, le château des armes damnées, entre autres.
Vraiment, là, c'était là. Puis après ça, c'était les sorcelleries.
Ah ouais.
Sorcellerie que j'ai encore à la maison et avec la dernière brique, là, la couronne des rois à la fin, là, qui
avec
était la grosse brique.
Numéro.
C'était assez incroyable.
Et on en parle là candidement, là, mais les livres dont vous êtes les héros, c'était une collection merveilleuse, une belle édition avec des illustrations. C'est peut-être ce qui m'a donné le goût de dessiner.
Toi, François aussi, t'en as lu quelques-uns?
Oui, c'est vrai que les illustrations... Ben, en fait, j'en ai reparlé avec plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement des joueurs aujourd'hui, mais on dirait que c'est comme tout un pan de notre culture au Québec. Les livres dont vous êtes les héros, tous les jeunes à l'école primaire ou au secondaire, on lisait ces livres-là. Et là, je pense que j'ai trouvé la réponse pourquoi. C'est parce que les couvertures étaient belles.
Ben oui, l'édition était magnifique. La vieille édition de l'époque. Aujourd'hui, ils ont ressorti. Ils sont jamais aussi beaux que ça.
Ils sont ressortis aujourd'hui?
Oui, mais dans des éditions trade paperback, là, avec du papier journal.
Oui.
C'est pas la belle édition qui sentait bon, qui était belle. Il y avait des beaux dessins, des belles couvertures hallucinantes, là, si je peux m'exprimer comme ça.
Est-ce que vous étiez des joueurs, qu'on pourrait dire, fair, entre parenthèses?
Oui, quand j'étais jeune.
Quand vous tourniez les pages et quand vous.
On jetait les dés.
Oui, vous alliez pas voir, disons, vous aviez deux choix, dire bon, lequel me fait mourir ou pas, ou vous alliez lire vraiment jusqu'à la fin. Oh,
j'étais innocent.
Je recommence
comme ça.
À zéro.
J'étais innocent comme ça, mais je peux te le dire, à 9 ans, là, j'étais aussi là, pris parce que je voulais jouer le jeu.
Ben moi aussi au début, mais à un moment donné, je me suis tanné à tomber toujours dans les mauvais pièges.
Ben oui,
après 3-4 lectures du livre, puis tu tombes justement par hasard sur la mort les 4 fois.
C'est difficile, t'as vraiment chez moi du livre-là, tu beurs souvent.
Oui.
Mais en plus, il y a des livres qui ont des erreurs dedans qui sont impossibles à terminer. Mais comme adulte, là, c'est vraiment intéressant parce que tu peux décrypter l'archéologie, l'architecture du texte, parce que c'est vraiment une architecture, on se voyage
de numéro en
numéro. Puis comme un adulte, si vous êtes un adulte et que vous avez déjà vu ça comme jeune, vous pourriez relire ça et le dépecer au grand complet dans toute son architecture pour voir comment le jeu était conçu, parce que c'est vraiment un jeu.
Ben oui,
c'était bien fait comme jeu.
Impressionnant quand même là, de voir les efforts. Puis c'était presque toujours les mêmes auteurs qui étaient... Il n'y avait pas un Ian Livingstone.
Il y en a eu beaucoup plus qui
Jackson parlait. Qui écrivait
Steve
aussi.
Steve Jackson, Ian Livingstone étaient les principaux.
Oui.
Mais souvent, ils présentaient des jeunes auteurs. Et d'ailleurs, je crois que le livre que j'ai présenté dans le Zine, c'est... Hey, j'ai un blanc de mémoire.
C'est un livre de pirates.
C'est un livre de pirates.
En haute mer, c'est ça?
Non, en tout cas, c'est un blanc de mémoire, mais c'est pas grave, là. C'est voyage au pays des hommes d'armée ou de quoi comme ça, là. J'ai un petit blanc de mémoire.
Il
n'y
a pas eu beaucoup de livres dont vous êtes les héros qui concernent les pirates ou qui
c'est très peu. Souvent des créatures d'un monde haute ou quoi que ce soit. Là.
Défi sanglant sur l'océan.
Voilà.
De la collection Défi fantastique. Je vous le conseille, c'est un livre très difficile et le texte en parle là, un peu avec humour et tout. Là.
Et tu mentionnais tout à l'heure, Alexandre, c'est même possible de trouver des vieux numéros de ces livres-là là, dans les bonnes vieilles librairies du style Colisée du livre.
Mais moi, je veux pas trop faire la publicité parce que je veux les trouver moi-même.
Ah, mais là, toi, t'es déjà ceux qui sont disponibles à cet endroit-là.
Qui est collectionneur de cette série-là.
Et il m'en manque, là.
Moi non plus, Vincent, j'étais pas un joueur fair. Je faisais pas je respectais pas les règles. Mais il y avait des astuces que les auteurs mettaient dans les livres pour nous assurer qu'on devait respecter certaines choses. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où il fallait qu'on fasse des calculs, où il y avait des énigmes,
calculs
pour trouver le chemin. Et que là, on n'avait pas le choix de le faire, le mot du calcul.
Ouais. Rendez-vous au numéro du calcul, là. C'était le numéro de chapitre, des choses comme ça.
Et si on le trouvait pas, on moulait.
Non, c'était quand même très bien fait. Moi, ça me rappelle de très bons souvenirs. Puis des bons souvenirs avec la lecture, parce que c'était une bonne façon d'intéresser les garçons à l'époque à la lecture. C'était vraiment bien fait.
C'est vrai.
Alors, merci beaucoup, Alexandre, et merci, François. Ça met le point final à notre émission d'aujourd'hui.
Alors, allez vous procurer le Zine, là, de Puissance
Maximale. Allez-y, ça sera bientôt disponible dans les mêmes points qu'à l'habitude. Alors, c'est la fin de l'émission, comme je le disais. Merci beaucoup, Alexandre, d'être passé à l'émission. Également, François, de ton côté, merci.
Merci à toi, Vincent Langlois.
Ça me fait plaisir. Et bien, nous vous donnons rendez-vous à l'Abraham Martin dans quelques minutes, 18h, pour la soirée de jeu Puissance Maximale. Sinon, vous pouvez nous écouter en rediffusion sur notre site Internet, le www.puissancemaximale.com. Et même nous envoyer des courriels si vous êtes au territoire du Nord-Ouest, à l'île d'Anticosti, et que vous voulez faire parler de vous. Peut-être nous contacter concernant des événements, concernant les jeux dans votre coin. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter par courriel et on se fera un plaisir de vous contacter et peut-être de vous avoir en ondes à l'émission. Et donc, sur ce, bonne semaine à tous. It's the ending.
chatting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before.
Nope.
Mm-mm. Woo! All right. Take it home.